Radio Okapi.
Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information de la mi-journée sur Radio Okapi. L'actualité reste dominée par l'identification d'un cas suspect de monkeypox ou variole du singe à l'hôpital général de Boma, en province du Congo central. Le médecin-chef des zones de santé de Boma qui alerte appelle la population à s'abstenir de manger la viande boucanée. Le gouvernement congolais implique les organisations des droits des consommateurs dans la lutte contre la vie chère au pays. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale a rencontré à propos hier jeudi ces structures. Depuis lundi, les casques bleus bangladais de la MONUSCO forment une vingtaine de jeunes de Bounia aux techniques d'agriculture pour une production rapide. Nous recevons dans ce journal Gloire Abassi, le président du Parlement des jeunes de l'Ituri, pour en parler. Bonjour à toutes et à tous. Ce journal part du Congo central où un cas suspect de l'épidémie des monkeypox ou variole du singe venait d'être détecté à l'hôpital général de Boma dans la ville portant le même nom en province du Congo central. Les malades identifiés est une dame d'une vingtaine d'années révolue. Docteur Serge Tamba, médecin-chef des zones de santé de Boma qui lance cette alerte, indique que ces malades présentent des éruptions cutanées sur tous les corps, l'un des symptômes de la variole du singe, mais pas dans les paumes de main, en attendant les résultats du laboratoire pour confirmer ou pas s'il s'agit du Mpox. Il appelle la population à s'abstenir de manger la viande boucanée, mais aussi à signaler tout cas suspect présentant notamment des éruptions cutanées. On écoute Dr Serge Tamba dans ses propos recueillis par Nana Pluriche Mambou.
C'est une alerte. En fait, les alertes doivent être investiguées avant qu'ils ne soient confirmées. Pour la dame que nous avons reçue, nous avons prélevé, mais déjà là, ces éruptions-là ne se trouvent pas au niveau des paumes des mains et des plantes des pieds. Quoique elle ait des éruptions un peu partout, ça plaide plus pour peut-être une varicelle. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons procédé au prélèvement, nous avons envoyé les échantillons, ils vont nous fixer. Voilà, ça ne sert à rien que la population soit paniquée ou pas. C'est vrai que c'est une maladie qui est très contagieuse, mais que la population soit calme parce que nous avons toute une cellule de surveillance. Nous sommes en train de surveiller et que la population puisse nous envoyer les alertes. Tous les cas qui se présentent au niveau de la communauté et avec des éruptions, ils n'ont qu'à venir, qu'ils les orientent ici à l'hôpital général. Comme ça, nous allons investiguer à partir d'ici et savoir si c'est les monkeypox ou c'est pas ça. Voilà.
Mesures contre la vie chère, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale a échangé hier jeudi dans la soirée avec les organisations des droits des consommateurs. Au cours de cette rencontre avec les réseaux intégrés des organisations des droits des consommateurs, les patrons de l'économie nationale est revenu sur les raisons fondamentales qui ont poussé le président Félix-Antoine Tshisekedi à initier ces mesures de lutte contre la vie chère. Il est aussi revenu sur les rôles que doivent jouer les associations des consommateurs pour que la population bénéficie des retombées de ces mesures. D'autres détails avec vous, Blaise Makassi.
Le ministre de l'économie, Daniel Moukoko Samba, a indiqué que ces mesures constituent le premier palier d'un long processus. Je le cite, « Nous avons commencé par le palier constitué des 9 produits les plus consommés par la population, notamment la viande, la volaille, le poisson frais, le poisson salé, le lait en poudre, le riz, le maïs, l'huile végétale et les sucres pour soulager la misère de nos compatriotes », a-t-il rappelé. Pour réussir l'application de ces mesures, Daniel Moukoko va s'appuyer sur les associations des droits des consommateurs dont la remontée des informations permettront à l'exécutif de recadrer ces mesures. Il a rappelé que la puissance d'un gouvernement réside dans la relation qu'il entretient avec la société civile. Derek Chibamba, coordonnateur du réseau intégré de ces organisations des consommateurs et porte-parole de ces associations, promet de mettre en place un cadre de collaboration pour régler ce partenariat avec le ministère.
Et nous voudrions que ce cadre de collaboration demeure permanent. La population congolaise, les consommateurs congolais aient connaissance qu'il y a des mesures favorables pour alléger tant soit peu la bourse du Congolais.
Les délégués des associations des consommateurs qui avaient pris part à la réunion ont promis d'accompagner le gouvernement dans sa lutte contre la vie chère.
Et puis, c'est ce vendredi 23 août que débute à Mbuela Lodge, dans la cité de Kisantu, dans la province du Congo central, l'atelier d'évaluation des activités des directions provinciales de la DINACOP, Direction nationale des contrôles de la paie des enseignants. Pendant près d'une semaine, les directeurs de cette structure, venus de toutes les provinces éducationnelles du pays, seront soumis à une évaluation en rapport avec la feuille de route leur assignée pour la période des deuxième et troisième trimestre de l'année dernière. Mais quelles sont ces assignations? La réponse dans ces reportages de Jacques-Yves Molima.
Plusieurs outils informatiques ont été mis à disposition des directeurs provinciaux de la DINACOP l'année dernière. C'est dans le cadre de l'exécution du plan d'action prioritaire qui a pour but, entre autres, le toilettage du fichier des agents éligibles à la paie et des établissements viables. Cela fait suite à l'audit diligenté en 2022, conséquemment plusieurs irrégularités constatées dans le secteur. C'est ce qu'énumère ici le directeur national chef de service de la DINACOP, Papi Mangobi.
Le non-respect des cadres organiques, des informations erronées liées aux dates de naissance, dates d'engagement, mauvaise graphie des noms, mauvaise adresse de paie, l'existence de beaucoup de doublons, une contradiction non expliquée des effectifs.
D'où cet atelier pour s'assurer de la compréhension des instructions par les acteurs en province et leur application, souligne le vice-ministre de l'Éducation nationale, Jean-Pierre Kézamoudrou, qui par ailleurs promet...
Au terme de ces assises, une cotation sur les performances des contre-performances des directeurs provinciaux sera établie.
En cas de faille, pour certains, notons-le, une nouvelle feuille de route sera établie et il n'y aura aucun relâchement, prévient le vice-ministre.
Direction la province du Maniema, où les ministres provinciaux de finances appellent les agents de la régie financière provinciale d'Egerma à un travail bien fait pour permettre au gouvernement provincial d'avoir des moyens de réaliser sa politique. Pour permettre à la direction générale de recettes de bien canaliser les recettes provinciales, le professeur Ali Kiamasawili parle de la digitalisation de cette régie parmi les grandes réformes attendues. On écoute le ministre provincial de finances Ali Kiamasawili au micro de Florence Kizalunga.
La DGERMA doit se préparer à de grandes réformes. Et parmi ces grandes réformes, c'est la numérisation et la digitalisation des modes de perception de tous les actes générateurs qui relèvent de la compétence de cette régie. Tenez, madame, la loi nous reconnaît le pouvoir de pouvoir récolter les recettes ici de l'impôt foncier. Mais quand vous demandez aux agents de la DGERMA, nous avons combien de maisons susceptibles de payer cet impôt? Personne ne vous répond. C'est des choses-là que nous allons maintenant faire un effort de maîtriser l'assiette, le nombre de contribuables, réduire les taux de fuite et de fraude parce que la propension à tricher est très élevée lorsque cette perception se fait de manière manuelle. Et donc, la volonté de l'autorité provinciale et moi-même comme ministre des Finances, on compte mener beaucoup de réformes, mais parmi ces grandes réformes, il y a la numérisation qui doit vraiment jouer un rôle dans cette province. Vous l'avez remarqué que son Excellence Antoine Félix Tshisekedi l'avait déjà dit lors de son discours programme. C'est d'ailleurs pour la première fois que dans ce pays, on a un ministère des numériques et l'autorité provinciale a pris l'exemple d'en haut, il a répercuté au niveau de la province, moi-même qui vous parle, je suis aussi en charge du numérique.
Au Nord Kivu, une accalmie s'observe à nouveau ce vendredi dans le secteur Osso-Banyungu en territoire de Masisi. Ceci après au moins deux jours d'intenses combats ayant opposé mercredi et hier jeudi les rebelles du M23 aux combattants des groupes armés locaux, notamment dans les villages Kaniro, Lukofi et autour du pont de Kisuma. Ces villages du groupement Boabo sont situés à environ 12 km du chef-lieu du territoire de Masisi. Certaines sources contactées dans la région indique que les rebelles du M23 auraient lancé des attaques contre ces groupes armés dans la région malgré les cessez-le-feu convenus il y a peu en Angola entre Kinshasa et Kigali. Pour ces sources, en effet, ces nouveaux combats ont ébranlé une fois encore la quiétude de la population civile de la région qui avait connu jusque-là quelques mois de tranquillité. L'actualité, c'est aussi la tenue hier jeudi au quartier Mugunga à Goma d'une tribune d'expression populaire axée sur la situation sécuritaire en commune de Karisimbi. Nous sommes toujours au Nord Kivu. Ce forum a mis autour du bourgmestre les membres du conseil communal de sécurité, quelques cadres des bases et les représentants de la population. Au terme des échanges autour des causes réelles de l'insécurité à travers les différents quartiers de la commune de Karisimbi, les bourgmestres affirment avoir pris bonne note en vue de trouver des solutions adaptées à la situation. Ce sont des stratégies qui ne sont pas à mettre sur la place publique, indique le président de la société civile, commune de Karisimbi, à l'issue de cette rencontre d'échange. Les propos de Christian Kalamo, recueillis par Chris Mukand.
Au niveau du quartier Munga, il y a prolifération des militaires, il y a beaucoup de Wazalendo, incontrôlés aussi. Il y a aussi des bandits qui se faisaient passer aux policiers avec leurs tenues. Comme il y a multiplicité de militaires, on ne savait plus qui contrôlait qui. Et les chefs de quartier et les cadres de base étaient dans une grande confusion. Voilà que c'est à l'issue de cette réunion qu'on a su qu'il y avait ces grands problèmes dans notre quartier Munga. Et tout ça, ça causait un grand problème. Crépitement de balles à tout moment, des cas de vol, les cas d'assassinat, des tracasseries, des motards. On a évoqué beaucoup de problèmes. Il y a problème d'obscurité, il y a problème de Bouaka, Bouakanzoto, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des mesures de tolérance dans nos avenirs au quartier Mgunga. Et tout ça, ça vient d'être évoqué par la population et c'était cadre de base. La population a demandé qu'à ce que toutes ces mesures-là de tolérance soient fermées. Il faut que les bois Kanzoto soient aussi fermés. Tout ça, le bourgmestre vient de nous promettre qu'il va s'impliquer dans les dossiers pour nous rassurer que la sécurité elle est revenue. Il a écouté les cris de la population du quartier Mgunga et il est venu, il a écouté la population et il a promis ce qu'il va faire, lui en tant que le numéro 1, le répondant de la commune de Karisimbi.
Restons au Nord Kivu pour parler cette fois de l'atelier d'évaluation du projet Pamoja Kwa Amani à Beni, Ensemble pour la paix à Beni, qui a réuni pendant 3 jours les membres des comités locaux de développement ainsi que divers leaders de la ville et du territoire de Beni, qui s'est clôturé ce jeudi 22 août. Lors de cette 3e et dernière journée, les rapports de recherche sur la persistance des conflits dans la région de Beni a été présenté aux participants. Ces rapports abordent notamment les conflits sécuritaires, fonciers ainsi que ceux liés au pouvoir. Les participants ont formulé plusieurs recommandations pour faire face à ces défis et instaurer une paix durable. Samuel Katembo, dont c'est Kanabo, président du Parlement des jeunes et participant à l'atelier, revient sur certaines recommandations au micro de Guylaine Kassassia.
Parmi les recommandations, l'autorité doit veiller sur le bon fonctionnement de son entité et que les éléments de ces rapports qui ont été élagués par rapport au conflit de compétences, que chacun joue son rôle pour ne pas entrer dans les attributions de l'autre. Mais aussi, par rapport à la gestion de conflits fonciers, il a été demandé à ce que les espaces du domaine public soient dotés de la personnalité juridique pour faciliter à ce que cela soit au bénéfice de la communauté. C'était un problème qui rongeait la ville et chacun n'était ne s'approprie pas les acquis de cette activité, ça risquerait de continuer. Mais heureusement, les participants sont satisfaits. Nous disons, nous allons accompagner ces actions pour que ces résolutions trouvent gain de cause. Il faut que chaque partie prenante prenne ses responsabilités selon les compétences. C'était vraiment important. Nous nous approprions ces rapports et nous comptons aussi élargir les éléments de ces rapports.
De Beni, rendons-nous à Bounia pour parler de cette campagne de vivre ensemble. Ne vous laissez pas manipuler par des personnes qui veulent déstabiliser l'Ituri en général et principalement les territoires des Mahagi. C'est l'essentiel du message de la campagne de sensibilisation à la paix lancée jeudi à Ndrele, un centre de négoce situé à plus de 150 km au nord de Bounia. Cette activité qui est organisée par la coordination de la société civile du territoire a comme objectif de conscientiser les différents couches de la population sur la culture de la paix. C'est l'une des recommandations du dernier comité territorial de sécurité des Mahagi qui suspectait les recrutements de jeunes des Djoukot par la rébellion du M23. Martial Kizabiamungu.
Le lancement de cette campagne de paix a eu lieu entre les dans la chefferie de Djoukot en présence des chefs locaux, responsables religieux et des représentants des jeunes. Selon les coordonnateurs de la société civile de Mahagi, cette sensibilisation est basée sur la culture de la non-violence et de l'implication de tous pour une paix durable dans la région. Pour son coordonnateur, Innocent Wabekoudou, la population doit non seulement se désolidariser des personnes qui veulent déstabiliser cette partie de la province, mais aussi collaborer avec les autorités étatiques établies pour une paix durable dans leurs entités.
L'objectif, c'est de sensibiliser les leaders communautaires à être vraiment vigilants et ne pas se laisser manipuler par ces vagues qui secouent les milices de l'État ici et à faire confiance aux autorités légalement établies, quoi. D'être vigilant par rapport à ces vagues qui secouent les pays de l'État ici.
Cette campagne se poursuit ce week-end à Bala et Ngoté avant de s'étendre dans l'ensemble du territoire de Mahagi. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au Sud Kivu, l'opération de cartographie des lieux de détention et d'identification des détenus ayant besoin d'assistance gratuite a démarré à Bukavu. Cette identification a débuté le 19 août. Le lancement officiel de la première phase a été fait par le ministre provincial de la Justice du Sud Kivu, Faustin Mayani, en présence de plusieurs hauts magistrats civils et militaires, membres de la commission mixte du Sud Kivu. Deux objectifs sont donnés à la commission mixte. Premièrement, faire la cartographie de tous les lieux de détention de Bukavu et deuxièmement, pour chaque lieu de détention visité, identifier tous les détenus arrêtés irrégulièrement et les détenus réguliers vulnérables. Rachel Kiesembangu nous fait le point.
Les détenus arrêtés irrégulièrement seront identifiés pour des libérations immédiates. Les détenus réguliers vulnérables seront assistés gratuitement. Leurs dossiers seront directement pris en charge par les avocats du projet Accès à la justice. Cette activité est organisée par le ministère provincial de la justice du Sud Kivu et la division provinciale de la justice appuyée par le projet Accès à la justice. Un projet mis en œuvre par le consortium des ONG internationales Alert, IPIS et Paul Institute, avec le financement du Royaume des Pays-Bas pour une période de 4 ans. La cartographie des lieux des détentions de Bukavu va continuer jusqu'au 4 septembre 2024 pour se rassurer que tous les lieux de détention ont été visités par la commission mixte et que tous les cas nécessitant l'assistance judiciaire gratuite ont été identifiés et pris en charge par le projet Accès à la justice, car c'est le projet qui va supporter le frais de justice et les honoraires des avocats. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Actualité en dehors de nos frontières. Au Soudan, la situation des civils à El Fasher n'est fait qu'empirer. Aucune aide humanitaire n'arrive à entrer dans cette ville du Darfour Nord, une situation d'autant plus inquiétante qu'elle intervient après l'ouverture du poste frontière d'Adré qui sépare les Darfour du Tchad. Si quelques camions humanitaires sont passés cette semaine, ils n'atteignent pas El Fasher, s'inquiète le Comité international de la Croix-Rouge CICR dans un communiqué publié jeudi 22 août.
L'invité.
Depuis lundi, les casques bleus bangladais de la MONUSCO forment une vingtaine de jeunes de Bounia aux techniques d'agriculture pour une production rapide. C'est une initiative du Parlement des jeunes de l'Ituri et du Conseil urbain de la jeunesse. En quoi consiste cette formation et quel peut être son impact sur la vie quotidienne de ces jeunes? Pour en parler, nous recevons Gloire Abassi, le président du Parlement des jeunes de l'Ituri. Il s'entretient avec Martial Kizabiamungu.
Gloire Abassi, bonjour. Vous êtes parti sur quel constat pour solliciter une formation de jeunes sur l'agriculture?
Le constat était que les jeunes aujourd'hui à Ituri sont un peu stressés et ils sont en train de s'interroger sur plusieurs questions par rapport à leur avenir, tout en pensant que l'Ituri ne sera pas pacifié. Nous, avec notre conviction, vu les efforts qui sont consentis par l'administration militaire, nous nous sommes dit sur les 3 ou 4 territoires qui étaient en insécurité, aujourd'hui, il y a quand même la calmie. Et nous avons estimé que l'Ituri étant potentiellement riche, on devrait en principe solliciter la formation en agriculture. Et comme vous le savez, l'agriculture permet à toute une communauté de vivre et de survivre par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. S'il n'y avait pas l'agriculture, la population de Bounia et Aer ne pouvait pas avoir à manger. Et grâce à ça, vu qu'il y a beaucoup de stress, on estime que les jeunes qui seront capacités en agriculture vont sûrement aider la province de l'Ituri.
Alors, à quoi consiste cette formation?
Cette formation consiste à améliorer la compétence ou les compétences des jeunes en matière de l'agriculture. Parce que aujourd'hui, chaque culture nécessite au moins une période. Et des fois, les gens se donnent la charge d'aller un peu planter ce qui n'est pas dans cette période-là. Et ça amène souvent à l'échec. Donc, notre souci était que les jeunes soient outillés et capacités par rapport à l'agriculture, en fait, qui contribue positivement dans la société.
Qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes dans la société après avoir suivi cette formation ou renforcement des capacités?
Et ce que nous attendons de ces jeunes, c'est d'abord premièrement que ces jeunes s'engagent à améliorer la situation que l'Ituri traverse aujourd'hui. Et comme vous le savez bien, si tout le monde s'est donné ce courage-là de faire la paix à Ituri, l'Ituri ne pouvait pas nécessairement attendre la nourriture, qui est donc la nourriture, par exemple, pour les biens qui seront exportés de l'Ouganda. Aujourd'hui, les tomates, aujourd'hui, pommes de terre viennent, même les maïs de l'Ouganda, pendant que nous avons des terres qui sont arables et on peut toutefois aussi planter pour aider Tassouapé l'Ituri. Et ce que nous attendons après cette capacitation de renforcement de ces jeunes et que ces jeunes soient les vecteurs du changement dans notre société et que nous ne puissions pas exporter mais que nous puissions importer à l'intérieur.
Pour finir, Gloire Abassi, est-ce qu'il y aura un accompagnement pour que ces jeunes puissent avoir des intras pour leur permettre de se lancer dans l'agriculture?
Par rapport à l'accompagnement, oui, nous sommes dans les plaidoyers afin que ces jeunes qui seront outillés et qui seront dotés de cette compétence-là de la part de ces cotéjas bangladais puissent aussi avoir quelque chose pour qu'ils aussi servent d'exemple pour d'autres. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes veulent être seulement dans des bureaux. Ils ne savent pas que pour être dans des bureaux, il faut commencer d'abord petit. Et il faut faire des choses qui vont sûrement aider les gens d'une manière pratique. Et notre souhait également était qu'il y ait un rapprochement entre les cotéjas bangladais ou encore la Monisco et toute la jeunesse de la province de l'Ituri. Comme nous vous l'avions signifié, messieurs les jeunes, nous allons vous signifier la première formation que nous venons à peine de commencer, c'est en agriculture. La deuxième, avec les mêmes cotéjas, va viser maintenant l'amélioration des jeunes par rapport à l'informatique. Et ainsi de suite, nous allons évoluer jusqu'à ce que nous allons former également les jeunes en anglais, afin qu'eux aussi s'améliorent davantage. Donc, nous invitons ces jeunes à l'assiduité et de savoir que nous sommes l'espoir de cette jeune province et nous devons nous engager aux actions concrètes et non théoriques afin que l'Ituri soit encore meilleure qu'hier.
Gloire Abassi, merci.
C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.